Bonjour à tous. Donc je vais effectivement parler de, essayer de parler un petit peu des aléas de la lutte contre le sida en Afrique. Déjà pour introduire, pour poser le contexte, la situation épidémiologique en Afrique, comme vous le savez, est absolument au-delà de l'entendement. C'est absolument terrible. Depuis les débuts de la pandémie, il y a eu 25 millions de morts du sida à travers le monde. En 2010, il y a toujours 6 000 morts par jour du sida. Et c'est toujours une épidémie en progression, puisqu'il y a plus de contamination que de mise sous traitement dans le même temps. Toujours. Donc c'est une épidémie qui continue de progresser. Donc la sous-région la plus touchée au monde, c'est l'Afrique australe, avec l'Afrique du Sud, où il y a eu 350 000 morts du sida depuis les débuts de la pandémie, et aujourd'hui, où 5 700 000 personnes vivent avec le VIH. Ensuite, derrière, il y a le Swaziland, qui est un beaucoup plus petit pays, mais dont la prévalence à VIH est la plus élevée au monde, avec 26%, suivi du Lesotho et du Botswana, donc 23%. Il y a des pays à prévalence entre 12 et 26%, donc la Zambie, la Namibie, le Zimbabwe, le Swaziland, le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Lesotho, avec des espérances de vie les plus basses au monde, entre 30 et 40 ans. Donc 40 ans, c'est par exemple l'espérance de vie en Afrique du Sud, en 2010 toujours. C'est sur cette carte, vous pouvez voir les pays en marron, c'est les pays où l'épidémie est la plus forte. Je voulais vous présenter une ou deux slides sur ce qui se cache derrière les chiffres quand on parle de prévalence et d'épidémiologie, parce que ça peut être intéressant pour poser le contexte, le cadre. Dans certains pays, la prévalence à VIH semble plus faible, par exemple en République démocratique du Congo, mais on réalise que les chiffres officiels sont vraiment en deçà de la réalité. Donc il y a une sérum prévalence officielle de 1,4%. Donc par exemple, si vous allez sur le site de NUSIDA, vous trouverez République démocratique du Congo, prévalence 1,4. Mais en fait, c'est probablement plus de 10%. Et ça fait une énorme différence dans la réponse internationale à la pandémie dans ce pays. Dans ce pays où les ressources, la ligne budgétaire allouée à la santé est très faible et qui dépend énormément de l'aide internationale. Donc au Sénégal, par exemple, en Afrique de l'Ouest, donc c'est un des pays qui a mieux réussi à juguler la pandémie parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et selon des études non officielles, plus de 60 à 80% de séroprévalence à VIH. Donc si on regarde les chiffres officiels une fois de plus, on a l'impression que c'est beaucoup plus bas. Et en fait, on a des surprises quand on creuse un peu. Donc, spécificité du VIH, c'est qu'on peut mourir d'AVC, de cancer, de paludisme, tuberculose, d'hépatite, et en fait mourir du sida. Donc, il y a aussi, quand les décès sont enregistrés, il y a souvent des morts qui ne sont pas enregistrées comme étant dues au sida, mais qui le sont. Donc, une dernière slide sur ce qui se cache derrière les chiffres. On entend souvent dire, on lit souvent dans la presse, tout ça, que tel ou tel pays a réussi à se battre efficacement contre le sida, puisque sa prévalence a baissé en quelques années. Sauf qu'en fait, une prévalence à VIH qui baisse, ça ne veut pas dire que c'est une réussite, ça veut dire au contraire qu'il y a des gens qui sont morts. C'est quand même pour expliquer, par exemple, pourquoi en Zambie, la prévalence est passée de 30% à 20%. Années 90, les trithérapies hors de portée de l'Afrique. Au début des années 90, il paraissait impensable que ces traitements puissent être disponibles en Afrique. Le coût de ces traitements à prendre à vie paraissait être un frein majeur à l'accès. On entendait beaucoup d'arguments racistes. De toute façon, ils ne savent pas lire l'heure et ils n'ont pas de montre. Ils ne sauront pas quand prendre les médicaments. Ou alors, il fait tellement chaud là-bas qu'ils ne pourront pas les conserver, etc. Donc ça, c'est des arguments qu'on entendait beaucoup de la part de gens qui travaillaient dans les ministères de la santé en France ou ailleurs et qui disaient « mais non, on ne peut pas contribuer à la lutte contre le sida en Afrique par l'accès au traitement, puisque de toute façon, ce ne sera pas possible pour les Africains de les prendre. Donc évidemment, de ces arguments découlait l'idée qu'il fallait tout axer sur la prévention et non sur l'accès au traitement. C'est dans ce contexte que les associations de malades se sont mobilisées pour dénoncer le coût des médicaments. Donc, voilà une image d'une conférence sur le sida en Afrique en 2003 à Nairobi. Donc, alors qu'en Afrique subsaharienne, le salaire moyen annuel est de 2 000 $, les premières trithérapies coûtaient en moyenne 10 000 $. par an et par personne. C'est l'arrivée massive des génériques qui a permis de faire chuter considérablement le coût des traitements et permis un accès massif important aux antirétroviraux. Donc, en Afrique en 2010, donc, vous savez qu'en 2005, les pays du G8 se sont engagés à l'accès universel au traitement anti-sida, tuberculose et paludisme. Donc, en 2010, l'accès universel n'est pas du tout atteint. On en est loin et se soigner reste un combat. Donc selon ONU-SIDA, donc ça c'est une phrase qu'on retrouve un peu partout, selon ONU-SIDA, moins de 40% des personnes vivant avec le VIH en ayant besoin ont accès à un traitement. Donc en fait là je voudrais juste voilà, souligner quelques termes de cette phrase et voir ce qu'il y a derrière. Donc 40%, donc c'est un chiffre très en dessous de la réalité, compte tenu de la difficulté, comme on l'a vu, pour ONU-SIDA d'avoir des données précises. Donc ONU-SIDA se base sur les rapports pays qui sont plus ou moins précis. En ayant besoin, ça signifie que les personnes dont le taux de CD4 est inférieur à 200. Donc c'est les précédentes recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui en fait se disaient en Afrique les personnes éligibles au traitement sont les personnes qui ont un taux de CD4 inférieur à 200. Donc en gros, on attend que les personnes soient malades pour les mettre sous traitement. À un traitement signifie pour 98% des séropositifs africains bénéficiant d'un traitement une première ligne, soit des molécules toxiques qui ne sont plus utilisées en France depuis très longtemps. Voilà, donc ça, on y reviendra après. Par ailleurs, pour être mis sous traitement, il faut pouvoir passer des examens, tests de charge virale et tests de CD4. Dans de nombreux pays, ces examens qui coûtent cher sont à la charge du malade. Ces examens restent chers en raison du prix des réactifs. On parle beaucoup du prix des médicaments, mais les réactifs, pour faire fonctionner les machines, ça coûte très cher. Pour faire fonctionner les tests de dépistage, tout ça, c'est vraiment très, très, très cher. Et donc, c'est Roche et Abbott qui détiennent un monopole dessus et pratiquent des prix exorbitants et vendent souvent des machines bloquées qui nécessitent l'utilisation exclusive de leurs réactifs. Donc, Nord-Sud, accès à deux vitesses, les doubles standards de l'OMS. Donc, je ne vais pas revenir trop là-dessus parce que hier, on en a pas mal parlé. Mais l'Organisation mondiale de la santé a mis en place des doubles standards de recommandations. Ces recommandations ont été modifiées début 2010. Alors qu'au Nord, il est recommandé de mettre sous traitement le plus vite possible après le diagnostic de séropositivité et d'administrer une molécule de seconde ligne. Au Sud, il est recommandé de mettre sous traitement lorsque le malade est en dessous de 350 CD4, donc il y a très peu de temps, c'était en dessous de 200 CD4. Il lui sera alors prescrit une première ligne, si possible zidovudine ou tenofovir. Et il est aussi recommandé de cesser progressivement l'administration de stavudine, tout le monde est au courant du fait que c'est très toxique. Donc la modification de ces recommandations est une bonne chose, mais rien ne dit qu'elles pourront être appliquées. Ce qui fait, évidemment, pour les appliquer, il faut un accès à des médicaments plus récents. Et évidemment, les médicaments plus récents coûtent plus cher. Donc soit on favorise l'accès au générique de ces médicaments plus chers, soit il faut que les mécanismes internationaux de financement aient plus d'argent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas dit que ces recommandations puissent être appliquées rapidement. Donc, qui paye les médicaments ? Donc, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, premier bailleur multilatéral. Le Fonds mondial subit de fortes critiques, mais pourtant, c'est un des seuls mécanismes de financement de médicaments qui a atteint de tels objectifs. Donc, 2,3 millions de personnes mises sous traitement depuis 2001. Il permet aux pays en développement de définir leurs priorités dans les demandes de financement qui sont envoyées à Genève. Donc, sinon, il y a le programme américain qui a été mis en place par George Bush, PEPFAR. Donc, PEPFAR finance dans les pays anglophones, comme par exemple le Kenya, la Zambie, l'Ouganda, à peu près 60-70% des antirétroviraux. Donc, il y a évidemment les gouvernements des pays. Par exemple, le Sénégal finance plus de 70% des antirétroviraux qui sont disponibles dans le pays. Donc, il y a United, dont Julien a parlé juste avant. Donc, c'est la Facilité internationale d'achat de médicaments qui a été créée en 2006. Donc, je ne vais pas développer. Donc, le rôle d'United est d'impacter sur le marché, c'est-à-dire, ce n'est pas le Fonds mondial, c'est-à-dire, ce n'est pas d'envoyer massivement des médicaments pour soigner le plus de monde possible. C'est de faire des commandes au laboratoire en leur disant on prendra l'offre la plus basse, le prix le plus bas, pour. Et le but, c'est de faire baisser le prix de certains médicaments, comme les médicaments pédiatriques ou les antirétroviraux de seconde ligne. Donc, pour les prochaines années, une tête s'est donnée pour but de mettre en œuvre une communauté de brevets, donc le patent pool dont Julien a parlé. Donc, sinon, dans les autres bailleurs de médicaments, il y a MSF, mais qui se désengage de pas mal de pays en ce moment, et la Banque mondiale. mais c'est vraiment minoritaire par rapport aux autres bailleurs. Donc, quelle durabilité de ces programmes ? Le Fonds mondial. Donc, depuis 2008, le Fonds mondial subit une importante crise de ses financements. En novembre prochain, les pays riches qui contribuent à ce fonds doivent annoncer leur contribution pour les 3 prochaines années. On sait déjà qu'il n'y aura pas suffisamment d'argent pour financer l'ensemble des programmes de qualité qui seront proposés, selon les estimations du fonds, ni pour financer le passage sous seconde ligne de traitement, ni pour appliquer les nouvelles recommandations de l'OMS. MSF et United n'ont pas vocation à rester indéfiniment dans les pays. Donc, comme on l'a vu, ils sont là, voilà, MSF, d'une part, pour répondre à une situation d'urgence à un moment donné dans tel ou tel pays, et United, d'autre part, pour impacter sur le marché faire baisser le prix de certains médicaments. Donc, les conséquences dans les pays de cette crise de financement. Donc, ça, c'est des exemples de pays où ACT UP a des liens particuliers avec certains activistes. Mais c'est des exemples parmi d'autres. Donc, le Cameroun, des ruptures de traitement régulières depuis décembre dernier. Rupture importante de réactifs. Zambie, selon les estimations du National Health Council, donc le Conseil national de lutte contre le sida, si le Fonds mondial n'est pas en mesure de financer un programme pour la Zambie cette année, et compte tenu du désengagement de PEPFAR sur le traitement, qui préfère se réorienter sur la prévention plutôt que sur l'accès au traitement, l'accès au traitement de 200 000 personnes, déjà sous traitement actuellement, pourrait être mis en cause d'ici janvier 2010. Et en République démocratique du Congo, les bailleurs internationaux se retirent les uns après les autres, il ne reste plus que le Fonds mondial. La RDC n'est pas non plus sûre qu'une proposition au fonds sera validée cette année. Ce qui est en jeu, c'est l'accès au traitement et à la prévention de nombreuses milliers de personnes. Donc, dans ce contexte dramatique, une des solutions, l'accès au générique. Donc, jusqu'en 2005, l'Inde, on parlait d'exception indienne, l'Inde n'était pas entrée dans l'OMC. Donc, l'Inde a développé massivement son industrie du générique, avec notamment Cipla, Hetero et Rambaxi. Donc, cela a engendré une chute du prix des médicaments de première ligne. Les trithérapies sont passées de 10 000 dollars par an et par personne à 100 dollars. Donc, l'arrivée des génériques et la baisse des prix ont permis à plus de 3 millions de personnes d'être mises sous traitement, bon, via le Fonds mondial ou d'autres bailleurs. Voilà. Donc ensuite, on parlait de l'accès aux premières lignes, parlons de l'accès aux secondes et troisièmes lignes. Donc en fait, pour un peu rappeler ce que c'est, donc voilà, quand une personne vivant avec le VIH est sous première ligne de traitement, le virus peut évoluer, muter, et il peut devenir résistant au traitement. Donc à ce moment-là, il lui faut d'autres molécules, et c'est ça qu'on appelle la seconde ligne. Donc après l'échec thérapeutique à la seconde ligne de traitement, on parle d'accès aux troisième ligne. Donc évidemment, en France, à peu près 80% des séropositifs en France ont accès aux secondes lignes, une partie du reste aux troisième lignes. Donc aujourd'hui, en Afrique, moins de 2% des personnes sous ARV ont accès à une seconde ligne. Les autorités sanitaires exigent un test de résistance pour changer les personnes de traitement. Donc évidemment, test de résistance aux frais du malade, test hors de prix. Et généralement, il n'y a pas de laboratoire dans les pays pour le faire. Il y a très peu. Je crois qu'il y a un laboratoire en Ouganda. Et sinon, il y a beaucoup de tests qui sont envoyés à Montpellier, en France, et qui coûtent de l'ordre de 5 000 euros. Donc c'est vraiment. Il y a certains pays qui imposent ça, mais c'est vraiment catastrophique. Donc United est un des seuls bailleurs à financer des secondes lignes. L'attitude des laboratoires. Donc, en 2008, le Sénégal émet un appel d'offres car le pays est intéressé pour se procurer des troisièmes lignes. Les laboratoires qui détiennent un brevet sur les troisièmes lignes, Thibautec, Roche, ne répondent pas. C'est-à-dire qu'ils ont un tel mépris pour les pays africains où ils se disent de toute façon, on ne vendra pas suffisamment, ça ne nous intéresse pas, qu'ils ne répondent même pas aux appels d'offres. Donc, quelques pays se battent pour l'accès aux troisièmes lignes, mais ils sont rares. Donc, il y a le Mali, le Sénégal, qui essayent de trouver des moyens de s'en procurer. Voilà, ça c'est ça vous montre la baisse considérable des prix entre 2000 et 2009, grâce au générique. Donc, générique, la production locale. Donc, est-ce que c'est une solution à court terme? Donc évidemment, ce serait la panacée, évidemment, qu'en Afrique, des usines d'antirétroviraux puissent produire des médicaments rapidement, etc. Mais voilà, c'est assez compliqué pour différentes raisons. Donc, difficulté à obtenir une préqualification de l'Organisation mondiale de la santé. Les bailleurs internationaux n'achètent que des médicaments préqualifiés au nom de la lutte contre la contrefaçon. C'est-à-dire que, en fait, l'OMS émet une préqualification, dit voilà, ces antirétroviraux sont de la même bioéquivalence, ils fonctionnent, etc. On émet une préqualification. Donc, sans cette préqualification de l'OMS, les bailleurs internationaux n'achètent pas ces médicaments. Par exemple, le Fonds mondial ne peut pas acheter des médicaments qui ne sont pas préqualifiés par l'OMS. Mais bon, il y a un autre problème pour l'accès au, pour la production locale, c'est le coût des matières premières et l'échelle de production. C'est très difficile pour une usine démarrante de proposer des prix aussi bas que Cipla, par exemple, en Inde, qui produit à une quantité telle qu'ils arrivent à faire baisser le prix de manière considérable. Donc face à l'urgence sanitaire, c'est pas sûr au final que les autorités locales choisissent d'acheter la production locale si elle est plus chère que Cipla, par exemple. Donc par exemple, en République démocratique du Congo, il y a une initiative qui a failli fonctionner, qui s'est arrêtée. Je crois qu'elle était la usine fonctionnait déjà et je sais pas pourquoi. Le projet a été abandonné. C'était donc une usine d'antirétroviraux au Kivu, donc à l'est de la RDC, de la République démocratique du Congo. Ça a été financé en partie par la coopération allemande, la GTZ. Une fois de plus, je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver de réponse sur pourquoi le projet a été vraiment abandonné alors que l'usine fonctionnait un peu. Donc, si jamais des gens dans la salle ont des informations là-dessus, ce serait très intéressant. Donc, menace pour l'accès au traitement générique, la fin de l'exception indienne. Donc l'Inde est entrée dans l'OMC en 2005. Elle ne peut plus contourner le droit des brevets de la même manière. Cette année, l'Inde signe des accords de libre-échange avec l'Union européenne qui prévoit une prolongation de la durée des brevets, 10 ans supplémentaires, une prolongation du data exclusivity. Les accords ACTA. Les accords ACTA dont Florent Latrive a parlé hier risquent d'augmenter les standards de propriété intellectuelle et d'augmenter le pouvoir donné aux douanes. Donc incitation à saisir les stocks, le maximum de stocks possible, de détruire les stocks de médicaments ou de les réexpédier à l'expéditeur à ses frais. Donc évidemment l'objectif c'est de produire un effet dissuasif et de freiner la production de génériques. Conséquence, entraver la production de génériques et les importations parallèles. Donc l'exemple de Rotterdam l'année dernière, c'était un stock de médicaments produit donc en Inde et à destination du Nigeria, donc médicament financé par Unitaid, qui a été saisi un mois en Hollande parce que les douaniers se demandaient ils avaient le droit, si c'était pas de la contrefaçon, etc. Donc ils ont constaté qu'il y avait un brevet sur les médicaments en question en Europe et ils devaient saisir et garder ce stock de médicaments. En fait, il n'y avait pas de brevet sur le médicament en Inde et ni au Nigeria. Mais le fait que ce soit en transit en Europe où les médicaments sont brevetés, c'est ça qui a motivé que le stock reste dans à la douane pendant un mois. Donc ça, c'est vraiment ce qui risque de se passer. C'est vraiment une illustration de ce qui risque de se passer très régulièrement si les accords ACTA sont signés. Et ce qui risque aussi de se passer suite à la signature des accords de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Donc voilà, vous avez à gauche une image d'activistes du DNP+, à Delhi, qui manifestent contre les accords de libre-échange. Et vous avez à droite une pancarte d'une action d'ACT UP récente à Paris sur l'ambassade d'Inde, donc qui dit Manmohan Singh, qui est le Premier ministre, défendez l'Inde, pas l'industrie pharmaceutique. Donc, mobilisation contre ACTA, vous avez donc deux communiqués de presse communs entre ACT UP, April, qui défend le logiciel libre, et la Quadrature du Net. On est assez content d'avoir pu s'allier avec entre associations qui ne travaillons pas sur les mêmes thématiques pour nous mobiliser contre ACTA. Donc, en fait, voilà, ça, c'est quelques images de la conférence du CAP, où c'est une conférence qui a lieu tous les 2 ans, où l'industrie pharmaceutique est présente, aux côtés de scientifiques, tout ça, les avancées en termes de recherche sur le sida. Donc, comme la conférence avait lieu en Afrique du Sud, les activistes se sont mobilisés pour dénoncer cette situation où l'industrie vient présenter ses nouvelles molécules dans un pays et sur un continent où l'accès aux molécules qui datent de 1996 est déjà très compliqué. Donc, pour finir, voilà, je voudrais parler très rapidement de quelques exemples de laboratoires qui ont bloqué l'accès au traitement. Ce n'est pas uniquement en Afrique, mais je trouve que c'est assez révélateur du cynisme de l'industrie pharmaceutique. Donc, le cas Schering. Donc, Schering a été racheté entre-temps par MSD. Donc, Schering a été le premier laboratoire à sortir un traitement de substitution aux opiacés, donc le Subutex. Peu avant la tombée dans le domaine public du Subutex, le laboratoire s'inquiète et décide de mettre au point le Suboxone. Comme il ne s'agit évidemment pas d'une innovation, le laboratoire décide de breveter et de vendre au gouvernement le Suboxone sous l'approche suivante. Cette nouvelle formule contient des microbilles. Elle est censée être dissuasive pour les usagers de drogue qui compteraient se shooter avec. C'est donc au nom de la lutte contre la drogue que Schering a vendu ce produit. Pour s'être shooté avec, de nombreuses personnes ont dû se faire amputer, notamment dans le nord de l'Inde, selon des personnes qu'on a rencontrées là-bas. Le cas Abbott, maintenant. En 2006, les autorités sanitaires thaïlandaises et Abbott ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le prix du Caletra, donc il y a une seconde ligne d'antirétroviraux. La Thaïlande menace d'émettre une licence obligatoire. Abbott menace de se retirer du territoire thaïlandais si la licence obligatoire sur le Caletra est émise. Pression internationale se met en place. ACT UP organise un net strike sur le site du laboratoire. En fait, c'est un logiciel que tous les internautes pouvaient installer sur l'ordinateur qui permettait de se connecter 200 fois par minute sur le site d'Abbott, ce qui fait que ça l'a fait exploser rapidement. Donc, Abbott porte plainte contre ACT UP. Et Abbott retirera ensuite sa plainte après plusieurs mois sous la pression internationale et trouvera un accord avec les autorités thaïlandaises. Mais ça n'a vraiment pas été facile et ça a été vraiment une preuve du cynisme d'Abbott. Donc le cas Sanofi Aventis maintenant. En 2008, des négociations entre la Thaïlande et Sanofi échouent sur le prix du Plavix, un anticoagulant médicament phare de Sanofi. La Thaïlande menace d'émettre une licence obligatoire. Le commissaire européen Peter Mandelson envoie un courrier menaçant la Thaïlande de rétorsion économique de Bruxelles si la Thaïlande émet une licence obligatoire. Donc ce courrier, on se l'est procuré et c'est écrit noir sur blanc, et c'est destiné donc au nom de la Commission européenne, c'est destiné à la Thaïlande. On apprendra plus tard que Sanofi et aussi Paris, l'Élysée et Sanofi Aventis auraient fait pression sur la Commission européenne pour que ce courrier soit envoyé. Donc on voit bien, une fois de plus, les intérêts de Sanofi en jeu. Le cas Roche, pour terminer. Roche détient le monopole sur le Fuséon, un inhibiteur de fusion, donc une troisième ligne de traitement anti-sida. Fin 2008, nous sommes alertés du fait que les négociations entre la Corée du Sud et Roche ont échoué, car le labo demandait 22 000 dollars par an et par personne pour le Fuséon. Et évidemment, la Corée refusait. En plus, la Corée proposait 18 000 dollars par an par personne, ce qui est quand même pas rien. Mais ils ont échoué. Au cours d'une réunion en présence d'activistes coréens, Roche aurait déclaré « Nous ne faisons pas des affaires pour sauver des vies, mais pour faire de l'argent. Sauver des vies n'est pas notre problème. » Donc les activistes internationaux lancent une campagne mondiale qui poussera Roche au final à mettre un programme spécial d'accès aux fusées en Corée. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on voulait au départ. On voulait que la Corée émette une licence obligatoire sur le fuséon. Même si après ça posait un certain nombre de problèmes de production puisque le fuséon est assez difficile à produire. Là ils ont mis en place une sorte de programme compassionnel pour permettre l'accès au fuséon. Donc voilà, je vous remercie.